France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
La démocratie survivra-t-elle aux fake news? La vérité est-elle définitivement enterrée? Rien n'est moins sûr, mais la question se pose. Vous vous souvenez sûrement qu'au moment du débat contre Kamala Harris, le 10 septembre 2024, Donald Trump avait déclaré, je cite, à Springfield, dans l'Ohio, « Les migrants mangent des chiens, ils mangent des chats, ils mangent les animaux de compagnie des habitants, c'est ce qui se passe dans notre pays. » Fin de citation. Cette déclaration délirante avait été partagée plus de 2,2 millions de fois et avait reçu plus de 8 millions de likes. À la suite de quoi, la désinformation sur les immigrés et le soi-disant grand remplacement, ainsi que les thématiques complotistes et paranoïaques de l'extrême droite, avaient encore progressé. Et à la fin, les sondages pour Trump étaient montés. De nombreuses études le confirment, propager de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux pénètre plus rapidement et plus profondément que donner des vraies informations. Et quand il ne s'agit pas de manipuler l'opinion à des fins politiques, les infox, comme on dit, ça sert à engranger des clics, des vues et à générer du cash. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec un jeune homme qui s'amuse sans grand scrupule à lancer des rumeurs, essentiellement sur le monde du sport, dans l'espoir de gagner quelques dizaines ou centaines d'euros. Un témoignage rare et passionnant sur une pratique apparemment courante que nous ne cautionnons pas, évidemment. Il est suivi du récit d'une journaliste dont l'identité a été dérobée pour propager une fausse information particulièrement sexiste et dégueulasse, pour tout dire, sur la première dame de France. Deux récits tout de suite pour les pieds sur terre par Karine Lelouette.
Je m'appelle Valentin, j'ai 39 ans, j'habite dans la campagne rennaise. À l'époque, je faisais pas mal de petites vidéos, c'était vraiment les débuts des vidéos sur Internet, les débuts de YouTube, tout ça. Avec mes copains, on se filmait en train de faire du skate ou autre. Et du coup, on piratait les logiciels qui étaient payants à l'époque de montage et on s'amusait à faire des petits montages. On les postait pas forcément, on les gardait pour nous, on s'amusait à les regarder entre nous. On se faisait des petits habillages style télévisuel avec des bandeaux, etc. Voilà, c'était plus de l'amusement. Et donc j'ai cherché pour faire des études là-dedans. Donc j'ai trouvé un BTS audiovisuel à Marseille. Donc, ce qui m'a permis vraiment de me professionnaliser dans le montage. Je me disais, comme je pense tous les gens qui rentrent dans une école d'audiovisuel, que j'allais faire probablement du cinéma. Mais quand on a 20 ans et qu'on se dit ça, c'est pas forcément le cas derrière. Et finalement, j'ai trouvé un emploi pour devenir monteur, en fait, en freelance, en auto-entrepreneur, pour faire du vertical, du format vertical, comme les shorts ou les reels sur Instagram. Et c'était pour la Coupe du Monde 2022. Donc faire des résumés, des interviews, etc. Je travaillais full remote à la maison, j'avais juste besoin de mon ordi. C'était vraiment du montage très très rapide, très dynamique. Voilà, c'était à destination de Snapchat principalement. Et j'ai un peu travaillé aussi sur YouTube et ça a commencé du coup à me mettre un peu pied à l'étrier dans l'univers du web en fait. Donc après, quand j'ai été embauché par une autre boîte, toujours en freelance, pour faire du contenu foot, encore une fois, c'est là où on est rentré, en fait, dans une dynamique un peu plus intelligence artificielle, où le contenu était un peu plus automatisé. Et en fait, ce contrat s'est fini au bout d'un moment. Et à la suite de ça, je me suis dit que, en fait, ça marche quand même assez bien. Je me suis dit que j'allais faire la même chose de mon côté, mais j'allais prendre une direction un peu différente, un peu fake news, mais dans le monde du foot. Donc ma première vidéo, j'ai fait une vidéo un peu react par rapport à la victoire du PSG en Ligue des Champions, en disant qu'ils n'avaient pas vraiment gagné, pour voir si ça allait, ce qu'on appelle un peu du bait click. Le bait click, c'est en gros, on arrive à attraper l'attention du spectateur. Donc j'ai démarré par une phrase choc, le PSG n'a pas gagné. Et bon, ça m'a fait quelques vues. Ça m'a permis de démarrer en fait la chaîne TikTok. Au début, je me suis dit que je voulais passer très peu de temps dessus J'ai toujours mon emploi en tant que monteur, je travaille pour des youtubeurs, donc je suis rémunéré pour ça, c'est vraiment mon job à plein temps. Je fais ça à côté, dans mon temps libre. Et donc je me suis dit que j'allais être vraiment quasiment full intelligence artificielle. Donc j'ai fait le logo via intelligence artificielle, tous les sous-titres étaient faits par l'intelligence artificielle. Je demandais un script, donc je demandais à ChatGPT de me... Je lui donnais juste une idée. Écris-moi une vidéo courte sur le transfert de tel joueur dans tel club. Et même si c'est pas vrai, ChatGPT, il s'en fout, il est pas là pour dire des choses vraies de toute façon. Il est juste là pour faire la conversation. Et donc, je suis pas là pour faire une vidéo où les gens ils vont dire, waouh, incroyable, très beau montage, ou c'est vraiment que de la news. C'est dans une optique de monétisation, principalement, de toute façon. Les abonnés, il faut en avoir 10 000 pour être monétisé. Et après, il faut arriver à faire 100 000 vues dans le mois pour gagner de l'argent. La rémunération de TikTok, c'est la plus avantageuse de toutes les plateformes. Sur 1 000 vues, on va être à peu près à entre 15 et 30 centimes pour les 1 000 vues. Mais il y a ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. C'est-à-dire que selon le public qu'on cible, les pubs qu'on va leur donner, ils vont cliquer dessus et ça va rajouter en fait des revenus. Donc grâce à la pub. Et on peut monter assez facilement en fait à 1 $ pour 1 000 vues. Donc une vidéo de 150 000 vues peut faire 150 $, ce qui est assez bien. Alors je vais commencer à monétiser la chaîne quand elle aura 10 000 abonnés. Là j'en suis à un peu plus de 5 000. Alors j'ai aucune idée de combien je peux gagner, mais je pense que je pourrais faire peut-être 100-200 € par mois si je peux arriver à mettre en faisant une demi-heure par-ci par-là entre 100 et 200 €. Bah à la fin de l'année, ça paye des vacances, quoi. Y a des gens qui gagnent 50 000 € par mois avec TikTok. Ça, c'est incroyable. Après, pour arriver à percer, il faut de la chance, il faut du talent aussi, mais faut être très assidu aussi. Moi, je fais une petite vidéo par-ci, par-là. Voilà. Après, il y a des gens qui font des vidéos et qui en font une ou deux par jour, qui se mettent en scène aussi eux-mêmes. Et donc ça va être beaucoup plus engageant. En fait, le public de TikTok, ils aiment bien suivre des gens qu'ils voient, qu'ils connaissent. Ils vont créer une communauté, en fait. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a sur le web, en fait. Pareil pour YouTube, etc. Une fois qu'on a explosé avec TikTok, de toute façon, il n'y a même plus besoin de travailler derrière. Faut rester sur sa chaîne TikTok. Moi, je fais ça. Je trouve ça marrant, ça m'amuse un peu, ça me mettra un petit peu de beurre dans les épinards, mais j'aime bien ce que je fais à côté. Donc ça, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être, je sais pas, dans 4-5 ans, je m'en lasserai. Après, j'en sais rien. Dans tous les cas, je veux pas que ça prenne beaucoup de temps dans ma vie. J'ai déjà fait une vidéo en 10 minutes, chrono, qui a pu marcher, je sais pas, 10, 20, 30 000 vues. Alors, je fais le script. Une fois que j'ai fait le script, je vais sur un site qui s'appelle Eleven Labs. Donc, je tape mon script. Et du coup, il va me lire tout le texte sans erreur. Donc, je mets une voix vraiment assez neutre. Une fois que j'ai généré cette voix IA, ça va m'envoyer un fichier audio en fait que je vais pouvoir mettre dans mon logiciel de montage. Et ensuite, je vais chercher des rushs sur Internet, des photos, des vidéos, alors principalement sur YouTube et Google Images,
Que vous voulez du coup?
qui sont volées. Alors des fois, il y a des vidéos que je mets parce qu'il faut faire attention à pas se faire strike pour contenu volé justement. Donc les vidéos, en général, je vais mettre des vidéos des clubs. Il n'y a pas de copyright ni rien. Je vais mettre des vidéos de gens qui ont filmé depuis les tribunes, ce genre de choses. Si je mets des vidéos, par exemple, de matchs, il y a des chances que je me fasse strike par la FIFA ou les ligues de foot. En général, ça va me prendre entre 20 et 30 minutes, grand maximum. Et donc, 5 jours après avoir fait ma première vidéo, j'ai lancé sur une rumeur qui est un peu un serpent de mer, c'est le rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens. Et alors, j'avais lu sur un site qu'il y avait une personne proche du pouvoir saoudien qui avait dit que ça pouvait se faire. Donc j'ai repris cet article, j'ai demandé à ChatGPT de m'enrober un peu tout ça, et j'ai lancé cette vidéo et qui a fait 73 000 vues.
On peut l'écouter?
L'Olympique de Marseille va enfin être vendu à un fonds saoudien. Après des mois de rumeurs, Franck McCourt pourrait céder pour de bon le club phocéen à un puissant fonds souverain saoudien, marquant un tournant historique pour l'un des clubs les plus emblématiques du football français. Après l'échec des négociations à l'été 2022, l'actionnaire serait cette fois-ci sur le bon chemin. Selon un proche du royaume saoudien, M. Aldebassi, le PIF aurait jeté son dévolu sur le club phocéen. Aldebassi était déjà un insider de la vente de Newcastle à l'époque. Il cite « Je parle librement. Personne ne me donne de feu vert. »
Il y a des trucs vrais là-dedans ou pas?
Il y a des trucs vrais où la personne là, en question, Aldebassi, s'était exprimée là-dessus, mais c'était 100% fake.
Du côté des supporters, l'annonce susciterait à la fois espoir et prudence.
Au niveau des commentaires, principalement, on va avoir des gens qui vont, ce qu'on appelle du rage bait, c'est-à-dire que les gens ils vont rager dans les commentaires en disant que c'est pas vrai ou qu'on a fait des erreurs dans le descriptif.
Une nouvelle dimension qui leur permettrait de enfin rivaliser avec le rival parisien.
C'est vraiment une technique, le rage bait, où on va provoquer des commentaires qui vont faire monter dans l'algo, et en fait, c'est un effet boule de neige, en fait. Si l'info est pas relayée par un média comme L'Équipe, Eurosport, ou France Football, enfin, j'en passe, et des meilleurs, en général, c'est que y a rien d'avéré, en fait. Mais on est maintenant dans un monde où les gens, on leur bombarde tellement d'infos qu'ils ne vérifient rien, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Je sais pas si c'est vraiment TikTok, mais je les trouve vachement réactifs, les gens, en fait. J'ai l'impression qu'ils regardent ça le soir, ils regardent TikTok, ils scrollent, et ils commentent tout, n'importe quoi. Donc, j'ai essayé de faire du Lyon, du Monaco. Monaco, ça a complètement... Pogba qui signe à Monaco, ça a bidé complètement. Après, j'ai essayé de faire des choses un peu avec de l'audio. Ça a complètement bidé aussi. Sur TikTok, ce qu'on peut faire aussi, c'est poster ce qu'on appelle des carousels photos. C'est pas monétisable, par contre ça fait venir beaucoup d'abonnés. J'ai essayé en mettant les femmes de footballeurs, en me disant bon, peut-être ça va prendre, ça a pas du tout pris. Du coup j'ai arrêté de faire des carousels. J'ai mis un joueur, j'ai dit qu'il était uruguayen alors qu'il était portugais, exprès. Mais je l'avais pas fait exprès au début, c'est ChatGPT qui s'est trompé. Et je me suis dit que j'allais le laisser. Je l'ai laissé et ça a fait 176 commentaires sur cette vidéo pour 40 000 vues, ce qui est un bon ratio. Les gens ont... quasiment principalement commenté en disant « il n'est pas uruguayen, il est portugais ». Et ça a fait monter dans l'algorithme. Et ça, c'est très bon pour moi. Ouais. Moi, ça m'a fait des vues. Là, si ça avait été monétisé, on va dire, au maximum à 1$ le millier de vues, j'aurais fait 40€ sur cette vidéo. Ça m'a pris 20 minutes à faire la vidéo.
Vinicius a été aperçu à Paris. Il est ici pour signer avec le PSG. Le Brésilien était ce samedi dans la capitale pour discuter de son transfert au Paris Saint-Germain et il a été repéré. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente pour une prolongation avec le Real de Madrid, Vini a décidé de claquer la porte. Et c'est tout naturellement que Nasser lui ouvre les portes. Un joueur comme ça, ça ne se loupe pas. Même si certains en feront les frais, Barcola serait du coup relégué en troisième choix à gauche derrière Kvara. Et toi, tu penses que c'est une bonne idée, Vinicius à Paris ?
Alors cette vidéo est drôle parce que j'ai fait 152 000 en disant que Vinicius allait signer au PSG. J'ai pris une photo de lui habillé normal avec une chemise, etc. Dans la rue, j'ai mis qu'il était à Paris. Alors là, on pouvait voir que la vidéo était fausse. Il y a des gens d'ailleurs qui ont vu qu'elle était fausse en allant... Il y avait une voiture derrière lui, en fait, ils ont regardé la plaque et ils ont vu que c'était pas une plaque française. Donc moi, j'ai dit qu'il était à Paris. J'avais même trouvé une vidéo de lui dans Paris où il est avec des jeunes supporters... qui sont en train de faire des vidéos avec lui, mais qui n'avaient rien à voir avec le fait qu'il allait signer au PSG. Et je l'ai rajouté là-dedans, et ça a explosé. L'application que j'ai, moi, c'est TikTok Studio. J'ai téléchargé TikTok pour voir, mais je n'utilise jamais TikTok moi-même. Donc c'est assez rigolo. Et là, c'est vraiment TikTok Studio, c'est vraiment pour poster les vidéos. Alors j'ai essayé de faire d'autres tentatives... notamment des vidéos sur l'astronomie, 300 000. Je crois que c'est la vidéo qui a le plus marché de tous mes comptes TikTok. Du coup, j'allais chercher des photos en haute définition de la NASA sur Mars. Je faisais des espèces de travelling avec mon logiciel de montage dessus. Et je mettais une voix IA par-dessus.
Voici les dernières images de Mars, capturées par le rover Curiosity, posées sur la planète rouge à 225 millions de kilomètres de nous. Il est à la recherche d'éventuelles traces de vie organique après avoir trouvé des composantes essentielles sur le sol martien.
Avec le son de Mars qu'on entend, voilà, en gros c'est que ça, que les images. avec des travelling. C'est des vraies photos de Mars, par contre, prises par la NASA. Pourquoi cette niche fonctionne bien? Alors, c'est assez effrayant, mais il y a énormément de gens qui croient pas du tout que la Terre est ronde. Il y a énormément de gens qui pensent que la NASA, ils racontent que des cracks. C'est assez affolant. Et donc là, les commentaires en majorité sur ce genre de vidéos, c'était « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment Mars ?» Il y en a un qui disait que c'est le désert d'Algérie. D'autres qui disent « Oui, oui, c'est ça, on va y croire. J'ai déjà vu cet endroit au Sahara marocain. » Donc ça, ça fait monter l'algorithme avec les commentaires. Et après, t'as tous les autres gens qui vont liker la vidéo ou qui vont répondre aux gens qui n'y croient pas en les traitant de complotistes, etc. Et donc là, vraiment, il y a un échange. Et là, il y a eu 700 commentaires là-dessus. Il y en a qui disent que c'est de l'IA. Enfin, c'est assez... c'est marrant, hein, parce que je vais quand même récupérer les images sur les sites de la NASA. La vidéo est fake parce que c'est pas du tout une photo récente. Le rover n'est plus en activité, c'en est un autre. Enfin voilà, c'est plein de fake news, en fait, en disant que la NASA nous a fait parvenir les dernières images. En fait, c'est ça, en fait, le pitch qui fait que les gens ils vont regarder cette vidéo en entière. Parce que c'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est que les gens regardent la vidéo en entière. S'ils décrochent au bout de 2 secondes, l'algorithme, il aime pas trop. Alors, j'ai pas de scrupule à balancer des fake news. Je me donne moi-même des limites par rapport aux infos que je vais donner. Par exemple, sur le foot... Donc là, j'ai aucun scrupule à balancer des rumeurs, en fait. Même moi, je peux y croire parfois, et il y a des rumeurs qui sont avérées vraies au bout d'un moment, qu'au début, on pensait totalement fausses. Je ferai jamais de fausses vidéos politiques ou... Et puis en fait, en travaillant là-dessus, en travaillant sur mes chaînes TikTok, je me rends compte que les gens, ils sont très très crédules et que ça peut faire beaucoup de mal, en fait, si on balance certaines infos, c'est touchy. Donc j'ai pas envie d'être responsable de ça, en fait.
Mais vous n'avez pas l'impression, malgré tout, que vous contribuez à mélanger le vrai et le faux, et que du coup, il y a une espèce de défiance qui ensuite peut être créée parce que bah, les gens, ils savent plus où se situe la vérité, en fait.
Je n'oblige personne à croire ce que je suis en train de poster. S'ils font ne serait-ce que 30 secondes de recherche sur Internet, ils peuvent voir que c'est faux. En fait, les gens, ça peut aussi leur permettre de s'entraîner à vérifier leurs infos, à faire la part des choses, en fait, sur ce qu'ils vont voir. Je pense qu'à force de leur envoyer des vidéos fausses, les gens vont quand même, au bout d'un moment, ouvrir les yeux, enfin, j'espère.
Je m'appelle Audrey Parmentier, j'ai 31 ans et je suis journaliste pigiste. Alors je crois que c'était le 3 ou 4 juillet que je reçois une notification LinkedIn. Je tombe sur un message d'une consoeur que je ne connaissais pas. Et en fait, elle m'alerte d'une publication qu'elle a vue sur Internet, qui me serait attribuée. Elle m'envoie le lien, en fait, juste après son message. Et donc je vois que c'est un article qui est publié sur un site qui s'appelle Enquête du jour. Je vois le sujet et après je vois effectivement mon nom et mon prénom et ma photo qui sont associés à cet article que je n'ai donc pas écrit. Je vois qu'il s'agit d'un article qui parle d'un médecin qui se serait suicidé. Apparemment, ce serait soi-disant un assassinat maquillé. Et il s'apprêtait plutôt à faire des révélations sur la transidentité de la première dame Brigitte Macron, où il expliquerait qu'il a des preuves comme quoi Brigitte Macron serait une femme trans. Donc là, je comprends très vite que l'article est en train de relayer une théorie complotiste. Et on a également une vidéo. Donc sur la vidéo, on a une voix qui est pas mal trafiquée, une interview qui était vraiment très étrange. Et aussi, ce dont je me souviens, c'est qu'apparemment, c'était aussi des révélations que le médecin, je crois, s'apprêtait à faire au magazine Closer.
François Fèvre avait promis aux journalistes de faire la lumière sur les opérations chirurgicales controversées de Madame Brigitte Macron. Voici un extrait de la vidéo de son entretien avec un journaliste du magazine Closer.
J'ai encore beaucoup d'informations sous forme de notes, de copies de dossiers médicaux. J'ai travaillé à l'hôpital américain de Paris pendant 6 ans et Dr Bouy était un de mes proches collègues. Il m'a transmis beaucoup d'informations sur ses patients.
Y compris sur l'épouse du président français.
Oui, il m'a parlé des changements physiques que Madame Brigitte Macron a subis lors de l'opération de chirurgie transgenre dans l'hôpital.
Vous parlez là de son opération de changement de sexe? Pouvez-vous me raconter un peu plus en détail?
En fait, moi, ça va me paraître fake très rapidement parce que je suis journaliste et que je suis plus ou moins sensibilisée, on va dire, aux questions des fake news. En fait, ce qui était le plus flagrant, on va dire, c'était la vidéo. Mais le texte était plutôt bien fait. Et même quand on regardait le site, il y avait un rubriquage qui était complètement similaire à ce qu'on peut retrouver sur des vrais sites plutôt d'information. Donc, il y avait une rubrique société, France, etc. Et en fait, c'est une autre consoeur qui a pris contact avec moi. Elle m'explique très vite que ce site a été créé dans le cadre de l'opération 1516. Donc apparemment, qui est une opération d'ingérence russe qui est connue donc, du gouvernement français, qui est assez documentée, surveillée. Et apparemment, ce serait un ancien shérif américain qui serait à la tête de ces méthodes. Et maintenant, il roulerait pour la Russie. Et en fait, la méthode est la suivante. C'est qu'il crée à chaque fois différents sites de fausses informations. Et il publie plein d'articles qui sont plutôt en lien avec l'actualité, qui sont générés par l'IA en essayant de copier un site d'information avec des vraies infos. Et au milieu de ça, de noyer, de lâcher un peu une fake news, une bombe, afin de déstabiliser peut-être le gouvernement français. En tout cas, l'idée, c'est de choisir des sujets qui fracturent, on va dire, une société et des sujets qui sont sensibles. Et ensuite, je commence un petit peu à regarder aussi le site de façon un petit peu plus approfondie. Et en fait, je me rends compte que j'ai énormément de papiers à mon actif, enfin de faux papiers. Donc, il y avait 12 pages de suggestions. Enfin, je pense que ça se compte par centaines. Et souvent, c'est des papiers qui reprennent, en fait, l'actualité française, l'actualité classique, en fait. Donc, ça peut être des incendies à l'époque dans l'Aude, parce que c'était l'été, donc c'était l'actualité. Ça pouvait être, je sais pas, une nouvelle loi sur la sécurité routière, des sujets environnementaux, des sujets liés à la géopolitique. Voilà. En tout cas, mon alias était assez polyvalent. Et productif. Petit à petit, je découvre aussi que je ne suis pas la seule. Je vois qu'il y a 5 ou 6 autres journalistes qui sont dans la même situation que moi. Et en fait, la plupart ont collaboré ou alors sont en contrat dans le média Street Press. Et en fait, c'est moi qui vais les informer que nos identités sont complètement usurpées. Moi, j'ai été mise au courant parce que j'ai été la fausse autrice, on va dire, de la fake news, en fait, qu'ils avaient envie de développer. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas cet élément-là, c'était compliqué de savoir que notre identité était usurpée. C'est assez silencieux, en fait. Mon premier réflexe a été de contacter la journaliste de France Info afin aussi de démentir assez rapidement en fait, cette fake news et surtout le fait que j'étais absolument pas l'autrice de cet article. Donc, je me rends compte très vite que l'article a beaucoup circulé parce que j'ai beaucoup de messages sur Twitter. Je suis mentionnée dans pas mal de posts aussi, plus que pour un simple papier. Et ce qui m'embêtait le plus, c'était le sentiment très vite, en fait, qui est monté d'impuissance, où je savais pas, en fait, comment faire pour arrêter la diffusion de l'article. Je savais pas qui contacter. Parce que, comme je l'ai dit, je suis journaliste pigiste, donc j'ai pas forcément de rédaction non plus sur laquelle je peux compter. Et c'est là aussi où j'ai eu quand même de la chance dans mon malheur. Parce que, voilà, Street Press a décidé de lancer des démarches juridiques et de porter plainte. Donc oui, c'est plus un sentiment d'impuissance et de sidération. Et ça a été accentué par le fait que j'ai contacté Twitter, je crois, et Facebook. Plus, j'ai aussi fait un signalement sur le site Pharos. Donc c'est un site qui a été mis en place, du coup, par le gouvernement pour signaler des contenus illicites ou, là, dans mon cas, donc des situations d'usurpation d'identité sur Internet ou de vol d'identité. Et j'ai pas eu de réponse. Le fait de ne pas avoir de solution à portée de main, ça me rendait un peu folle. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on patauge un peu dans la semoule. Donc, en fait, j'ai changé tous mes mots de passe, de réseaux sociaux, notre prénom, notre nom, enfin notre identité. C'est un peu aussi une forme de contrat de confiance qu'on a avec le lecteur. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à « mais si les gens que je vais interroger dans les prochaines semaines voient cet article, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'ils vont avoir une forme de défiance à mon égard ?» Et puis aussi pour mes collaborateurs, j'avais pas forcément envie que ça entache, on va dire, mon travail. Et en fait, mine de rien, le fait que ce soit un faux article sur Brigitte Macron, bah pour certaines personnes, enfin mes parents avaient un petit peu peur, je sais pas, que je sois attaquée en diffamation ou quoi. On se dit mince, de quoi ma fille est accusée. J'ai pensé à contacter Brigitte Macron, mais je pense que c'était le premier jour. Je me disais que ça pourrait être pertinent de lui dire que j'étais désolée déjà pour cette fake news, même si j'y étais pour rien, et surtout que je l'avais pas écrite, quoi, que je n'étais absolument pas responsable de cette mascarade. Et en fait, c'était ça aussi la question, c'était de comment on prouve en fait qu'on n'a pas écrit un faux papier. Même si j'ai pas mal de soutien autour de moi, j'ai l'impression que la situation m'échappe. Et donc du coup, tous les jours ou tous les deux jours, je regarde si l'article est toujours là. Je tapais tout le temps la même chose, quoi. Audrey Parmentier, Brigitte Macron. C'était devenu mes mots-clés, quoi, en fait. Je voyais que ça remontait hyper haut. Ça m'inquiétait que ça remonte, que ce soit aussi bien référencé. Je regarde les faux articles aussi que je continue de faire parce que ça continue, en fait. Je me souviens d'un journaliste de Reporters sans frontières qui m'a contacté gentiment pour un petit peu discuter avec moi sur le sujet. Et en fait, il me disait clairement qu'il n'y avait pas énormément de leviers à activer et qu'il fallait juste attendre que le site se détruise tout seul. Parce que souvent, c'est leur méthode opératoire, c'est-à-dire que c'était des faux sites d'information qui se créaient sur un temps, on va dire, une durée limitée. Et en fait, une fois que la fake news, elle était sortie, et une fois qu'ils étaient aussi un petit peu cramés, en fait, le site se stoppait lui-même et enfin disparaissait, quoi. Et puis un jour, voilà, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, juste du jour au lendemain, le site n'existait plus. Il n'y avait plus rien qui m'associait à Brigitte Macron, quoi. Ça m'a soulagée, j'avais l'impression de clore un peu un sale chapitre. Par contre, ça m'a un peu fait prendre conscience de la fragilité de mon identité numérique et de la facilité aussi qu'on pouvait avoir à usurper l'identité de tel ou tel journaliste. Ça vient distiller en fait une forme de doute aussi sur l'information en général, et évidemment que ça fait du mal à la profession. Et j'avais l'impression que moi, en tout cas, je découvrais l'ingérence russe, même si j'en avais entendu parler dans les médias, à la télé, etc. Mais que je découvrais un peu le problème. Et c'est peut-être ça qui est un peu le plus flippant, c'est que je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt.
C'était La Fabrique des Fake News, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Clémence Gross. Merci à Audrey Parmentier, à Valentin et à Alexandre Roussel. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel.